Je reçois Jonathan Negret, qui, alors bien sûr, les habitués de la radio le connaissent, hein, chers auditeurs. Il participe à Foot de Sport, il participe à Game Lovers. C'est le couteau suisse de la radio. John, comment ça va?
Le Kevin Chour de RCC. Salut Nagui, salut François, bonjour à toutes et tous.
Alors, je te fais venir aujourd'hui. Aujourd'hui, on a eu, la semaine dernière, Lucho qui nous a fait un gros plan sur l'Argentine. Ça nous a permis de connaître un petit peu les forces et les faiblesses de cette sélection qui est prétendante au titre. Aujourd'hui, la liste de l'équipe de France est sortie. On va pouvoir un petit peu la commenter. À l'aune de ces sélectionnés. On est le 14 novembre, vite fait, c'est le jour de l'orange. Qu'est-ce qui s'est passé un 14 novembre? C'était la première conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Buenos Aires, qui avait déjà à l'époque débouché sur aucun résultat. Donc au moins comme ça, ouais. Il y a des choses qui sont immuables, ça ne change pas.
C'était la COP combien?
Peut-être la COP 0, hein, pour le coup.
La COP 50, peut-être.
Qu'est-ce qui se passe aussi? Oui, en 2015, l'état d'urgence suite aux attentats décrétés par François Hollande. Hein. En 1908, l'invention du cellophane, c'est une invention suisse. En 1933, les découvertes du Salto Angel au Venezuela, qui sont les plus grandes chutes du monde. En 2018, la commission, ça s'intéresse pour nous, la commission européenne impose la radio numérique dans toutes les radios, les autoradios vendues en Europe.
En quelle année?
En 2018.
Pas encore fait.
En 1994. Bah pourtant, c'est imposé. Hein. En 1994, les débuts de l'Eurostar. Hein, pour tous ceux qui avaient pris des actions à l'époque, oui. C'était un petit peu le gouffre. Aujourd'hui, en Colombie, c'est la journée de la femme. En Inde, c'est la journée des enfants. Une bonne fête aux Sidonies. Un joyeux anniversaire à Olivier Marchal, Samuel Umtiti, qui casse la démarche pour de bon, puisqu'il n'a plus de genoux hein, depuis 2018. Au prince. Au roi. Ah ben oui, je ne m'étais pas mis à la page. Au roi d'Angleterre, Charles, à Patrick Sébastien, oh putain, c'est génial, à Stéphane Bern et à Nagui.
Oui.
Voilà.
C'était alors, Charles III. Hein.
Oui, alors pas le... comment je veux dire? Pas notre Nagui, hein? Pas toi.
Non, l'autre de la télé.
Celui de la télé, le moins doué. Alors, avec John, on va parler un petit peu de cette liste, mais il s'est passé des choses ce week-end. Il s'est passé, donc on est sur spécial Coupe du Monde 2018, la catastrophe. Hier, deux petits tremblements de terre. Le premier, Cristiano Ronaldo, qui va être un des joueurs les plus suivis pendant cette Coupe du Monde, puisque c'est quasiment sa dernière compétition, hein, 37 ans. Qui fait une grosse annonce, une grosse attaque envers l'entraîneur de Manchester United, les institutions, le club, et qui dit que rien ne va plus depuis. En fait, il fait le constat que tous les fans, finalement. Mais est-ce que, en le disant lui, ça aura plus d'impact? Est-ce que ça va changer quelque chose par rapport à la famille Glazer qui possède cette équipe et qui l'a racheté un prix d'or et qui a un petit peu tué la poule aux œufs d'or?
Alors, je pense pas. À mon avis, hein, ça vient plutôt d'une frustration du joueur lui-même, puisqu'il n'est plus titulaire au sein de ce club, et de par sa statue de meilleur joueur du monde qu'il a gardé. Je crois qu'il a 5 ballons d'or. Oui, c'est Messi qui en a 6. C'est dur à accepter. C'est dur à accepter parce que le type c'est un bosseur et tout, mais il ne rentre pas dans les plans du jeu. Alors, à juste titre ou pas, c'est l'entraîneur qui décide, mais Manchester United ne fait pas un mauvais championnat. Donc, on veut rester sur le Manchester de la grande époque. Mais il y a des passages où il faut un peu plus de temps.
Arsenal, qui revit un petit peu en ce moment, a mis plus de 12 ans. Hein.
Ah, facile.
Voilà. Donc, les grandes équipes ne meurent jamais. Alors, bien sûr, c'est une grosse institution, hein, Manchester United, mais qui a pris énormément de retard ces dernières années. Donc, bon, beaucoup de changements d'entraîneurs. Pas souvent pertinents, hein, les Van Gaal.
C'est dur de remplacer Ferguson. Hein.
Les Mourinho, en plus des gens qui n'avaient pas un projet de jeu, puisqu'on a l'académie qui est très forte à Manchester United, qui n'ont jamais fait l'ascenseur. Ces jeunes joueurs qui ont toujours complété l'effectif de l'équipe première. Et en plus, des entraîneurs qui avaient une politique de jeu qui n'était pas du tout en adéquation avec ce qu'a toujours connu Manchester.
En fait, ils n'ont pas anticipé l'après Ferguson. Le problème des clubs, ça vient de là. Si on ne prend pas l'anticipation 2-3 ans avant pour préparer l'après-entraîneur, pour revoir un projet de jeu, pour voir derrière qu'est-ce qui va amener et essayer de rester toujours au top niveau. Mais c'est compliqué. On voudrait que les clubs soient toujours champions ou deuxièmes tout le temps. C'est pas possible.
La deuxième, alors ça nous vient un petit peu, deuxième sujet que je voudrais aborder avec toi, c'est avant d'attaquer sur l'équipe de France, c'est un petit peu aussi cette grave blessure qu'a subie Amine Harit, le joueur de Marseille, qui flambait un petit peu, hein, qui était titulaire avec, depuis le début de la saison avec l'Olympique de Marseille. Et c'est un petit peu avec lui, on va pouvoir aborder ce problème du positionnement de la Coupe du Monde en hiver. C'est-à-dire que là, c'est un ligament croisé, c'est les ligaments croisés, hein, sur un gros contact avec Dizassi, le Monégasque. On en revient toujours à la même chose. 11 jours de la Coupe du Monde, les joueurs étaient toujours en club. Ils arrivent aujourd'hui dans les sélections. 11 jours pour se préparer avant le premier match. Est-ce que véritablement, il fallait la faire l'hiver?
Elle n'était pas vendue pour être faite l'hiver, cette Coupe du Monde.
Parce que dans toutes les sélections, Allemagne, Timo Werner, l'avant-centre, la France, Pogba, Kanté, c'est pas n'importe qui, c'était le milieu champion du monde.
Et puis les méformes qu'il va y avoir.
Sadio Mané.
C'est des gros joueurs. Attention, tu as des blessures sur des gros joueurs. Les joueurs qui ont pas envie ou peur de se blesser, donc jouent moins, mais vont manquer de rythme. C'est très compliqué à avoir. Mais il faut se rappeler que quand le Qatar a réussi à avoir cette Coupe du Monde, elle a été vendue pour être jouée en été comme toutes les autres Coupes du Monde. Se poser la problématique donc du climat qui avait été assuré par les dirigeants du Qatar avec leur stade climatisé en été. On se demandait déjà comment ils allaient faire. Bon, il n'y avait pas... À l'époque, il n'y avait pas cette question d'écologie.
Le réchauffement climatique, ce n'était pas dans le débat public.
Exactement, et ça ne faisait surtout pas débat. On se demandait par quels moyens, bon, avec tout ce qu'ils avaient fait comme construction. Donc, naïvement, certains l'ont cru, mais je pense que tout le monde savait ce qu'il en allait être par la suite. La suite, c'est quoi? C'est une Coupe du Monde en période d'hiver qui modifie drastiquement la préparation des joueurs, les calendriers des championnats, parce qu'il ne faut pas oublier que la majorité des participants à la Coupe du Monde, ce sont des pays européens. Donc il y a une Champions League, il y a les coupes des clubs, il y a le championnat qui est très long. Et donc, on arrive sur une période charnière pour les clubs à laisser partir des joueurs. Avec une trêve d'hiver qui est au moins égale qu'à une trêve estivale, avec une reprise qui va être compliquée, avec donc ce climat, tu reviens du Qatar, tu dois avoir 20 ou 30 degrés de décalage. Enfin, ça va être très dur à gérer.
Il y a aussi le problème du jeu, c'est-à-dire que avec une semaine de préparation, là, tu ne fais que de la tactique. Et de la remise en forme.
Que c'est que de la remise en forme.
Donc, en fait, toutes les équipes sont sur les acquis d'il y a 6 mois, enfin, dernier rassemblement.
Et encore plus sur des acquis de club.
Voilà. Donc, ça veut dire, est-ce que toi, tu penses que ça va être au détriment... Alors, moi, mon idée, c'est qu'en fait, finalement, les gros vont s'en tirer, puisque finalement, le fond de jeu, les joueurs, le banc, va faire que par rapport à des petites nations, ils vont pouvoir s'en tirer, petites nations qui n'ont pas eu aussi le temps de se préparer. Un Japon qui avait, avec un mois de préparation, arrivé à te fournir, la Corée arrivé à te fournir un joueur au top physiquement. Là, ce ne sera pas le cas. Donc, est-ce que ça va jouer pour les grosses nations? Première chose. Et est-ce qu'on va avoir un niveau de jeu finalement élevé, ou est-ce que ça va être un peu foufou finalement, du coup, puisque personne n'a d'assurance?
Alors, je ne sais pas, parce que les petites nations, entre guillemets, n'ont pas les contraintes de calendrier qu'ont les grosses nations. Je pense que ce sont des joueurs qui vont arriver avec une pression moindre que ces nations confirmées. Donc, d'une part, par le calendrier que je t'ai cité avant, et cette peur de se blesser de joueurs performants avec lesquels ils ont des objectifs de victoire ou de bien figurer. Alors, foufou, je ne sais pas, mais je pense que ça va être quand même décousu. On peut avoir des surprises. Alors, je ne suis pas bon pronostiqueur, mais on peut avoir des surprises par incohérence, justement parce que on est dans l'inconnu la plus totale en termes de jeu et surtout de performance physique.
Alors du coup, on va arriver au nœud du problème. Jeudi, Didier Deschamps a sorti sa liste. Alors je rappelle les gardiens, Areola, Lloris, Mandanda, défenseurs Saliba, Upamecano, Varane, les deux frères Hernandez, Pavard, Kimpembe, Koundé, Konaté. Milieu, ah, c'est là où le bas blesse, Camavinga, Tchouaméni, Rabiot, Vertu, Guendouzi, Youssouf Fofana. Et devant, bon, devant, il y a peu d'équipes qui peuvent revendiquer d'avoir une ligne d'attaque aussi performante. Karim Benzema, Kylian Mbappé, Dembélé, Coman, Giroud, Griezmann, Nkunku.
Je te rajoute un 26e joueur.
Ah.
Qui a été sorti ce matin. D'accord. Le fils à Thuram.
Marcus Thuram.
Exact, j'ai plus son prénom. Voilà, Marcus Thuram.
C'est officiel.
Ouais, il a rappelé. Alors, je ne sais pas si c'est en prévision d'une éventuelle défection. Parce que je pense que tu peux venir qu'à 25.
Oui, non, 26. C'était 26 par rapport à la Covid. Mais alors là, c'est très intéressant parce que je ne comprenais pas. Toutes les sélections ont fait le choix finalement de partir à 26. Alors, il y en a certaines qui attendaient la fin des championnats pour rajouter, comme le Danemark, qui attendait de voir un petit peu par rapport aux blessures et tout ça, qui ils allaient rajouter, les 4 ou 5 joueurs qu'ils n'avaient pas dit. Donc là, tu me dis Marcus Thuram.
Ouais, sorti assez, ce matin, j'ai entendu ça.
C'est assez étonnant parce qu'en plus, devant, c'est assez costaud. C'est plutôt au milieu que j'aurais vu peut-être un éventuel renfort.
Alors, je ne sais pas sur quelle formule, quelle tactique il va employer ça. Parce que pour moi, c'est un milieu qui est très faible quand même.
Ah oui.
En termes de... Ben, tu perds Pogba et Kanté.
Deux métronomes.
En plus, les deux s'entendaient bien. Je ne sais pas sur quelle vision il va apporter. Il y a beaucoup de joueurs à éléments défensifs. J'ai peur que... Bah, il y a que de toute façon, Deschamps, il est plus que compétent. Mais j'ai peur que cette sélection risque de manquer d'équilibre.
Alors, la grande information, finalement, quand il a émis cette liste, c'est le quasi-oubli du 3-5-2 par rapport à la compo.
Ouais.
On est sur une équipe, bon, physiquement c'est quand même solide, hein, que ce soit derrière ou au milieu, mais on est sur des gros gabarits. Les surprises, moi je voudrais quand même en citer deux voire trois. La première pour moi, c'est le choix du troisième, c'est le choix des gardiens. Alors, soit la surprise c'est Areola,
hein.
Soit c'est Mandanda. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu emmènes un troisième, que Maignan n'est pas dispo, ce qui est bizarre parce qu'il est en phase de reprise avec le Milan. À partir du moment où tu n'emmènes pas Maignan, est-ce qu'il ne valait pas, plutôt que de prendre un Mandanda ou un Areola, le train est passé pour Areola, on est d'accord, il a 26 ans maintenant, le train est passé.
Il était de la campagne russe, il était en 2018.
Il était en 2018.
Bon, alors, est-ce qu'il ne prend pas Areola parce que...
Il sait que ça ne va pas le déranger.
Gardien de vestiaire, j'aime pas ce terme.
Un Samba qui est très jeune et qui flambe avec le RC Lens, est-ce que ça ne valait pas le coup de lui donner un peu d'expérience sur une grosse compétition internationale?
Alors, tout dépend de comment tu le mets, le Samba. Si tu le mets troisième gardien, non. Pour moi, Deschamps ne considérait pas Samba comme deuxième gardien. Donc, il reste sur ce choix-là où les gardiens ont l'habitude de faire la sélection ensemble. C'est c'est pas une grosse prise de risque. Donc, il assure aussi son vestiaire.
Derrière, on va venir sur moi. Alors, Varane, Kimpembe, phase de reprise. Blessé depuis deux mois. Et l'autre, trois semaines avec une pointe à la cuisse. Tu prends Konaté. Alors, c'est la bonne surprise parce que Konaté, c'est très costaud avec Liverpool. C'est à côté de Van Dijk. Mais tu as Saliba, Upamecano qui a toujours été très très mauvais en équipe de France, particulièrement mauvais, je dirais même en équipe de France. Je comprends pas. Il y avait peut-être des joueurs qui méritaient un Ferland Mendy sur un côté pour essayer de gonfler, un Badi Achille qui lui avait toujours été très très bon avec l'équipe de France, le Monégasque. Je comprends pas ces choix-là. Est-ce que toi tu crois que là encore il choisit des mecs qui vont cirer le banc?
Alors, c'est pas pour l'habitude de Deschamps de prendre des joueurs qui font banquette. Je pense qu'il fait plus attention à une cohésion de groupe avec des éventualités de remplacement qui feront.
Pas bouleverser.
Parce que c'est bien beau de prendre un 11 performant avec deux, trois remplaçants qui vont t'apporter une plus-value en cours de match, mais tu as une vie de groupe derrière, c'est donc 26 joueurs. L'équipe de France a connu par le passé quelques déboires, notamment
2002-2010.
Au sein du vestiaire. on connaît tous ce qui s'est passé en Afrique du Sud, mais il n'y a pas eu que cet événement-là. Hein. Ça a été très compliqué de faire un groupe qui s'entende bien. Et sur une période une compétition d'un mois, eh ben, il faut que ça soit un mental à toute épreuve.
Alors, sur les Varane, Hernandez, Pavard, Koundé, Kipembe, à la limite, on n'est pas trop surpris. C'est plus ou moins ce qui était prévu au départ.
Logique.
Il n'y a pas de manque. Le milieu, très inexpérimenté. À part Rabiot, qui avait ses petites habitudes malgré tout, malgré sa non, il n'a pas été pris lui en 2018.
Ouais.
Ça avait été.
Mais là, il manque des éléments. Donc.
Bon, il y a la surprise. Alors, Fofana, non, parce que ça fait deux belles saisons qu'il fait quand même avec Monaco. Mais il n'avait pas été pris. Tchouaméni, énorme. Kamavinga, très jeune, mais lui aussi pas très très bon souvent en équipe de France. Rabiot et Vertoux. Alors là, c'est la surprise. Vertoux. Est-ce qu'il met l'association Vertoux-Guendouzi qui a l'habitude de jouer ensemble? Est-ce qu'il bénéficie
de ça? C'est sa prise de risque à Deschamps. Voilà.
J'ai entendu dire que l'agent de Vertoux était un ami de Didier Deschamps.
Est-ce qu'on en est dans ces considérations-là? Ça, à la limite, en club, tu peux le voir, mais en sélection... Ça serait quand même gros, hein, quand même. Non, je pense que...
Vertoux qui avait une grosse cote à la Roma. Hein.
Oui. Alors, je pense qu'il tente un pari, parce que bon, Deschamps, il n'arrive jamais sur quelque chose de bien établi tout le temps. Hein. On se rappelle des joueurs comme les Hernandez quand ils sont arrivés, ou comme...
Même le pari Mbappé en Coupe du Monde. Hein.
Oui, alors, rappelle-moi le nom du joueur, je ne l'ai plus, celui qui a marqué contre l'Argentine, l'arrière-droit.
L'arrière-droit qui a marqué contre
en Coupe du Monde. Voilà, merci. Pavard, quand tu le sélectionnes, même si c'est un joueur de club confirmé, tu te dis, c'est quand même une prise de risque. Donc, voilà, pour moi, il fait une prise de risque au milieu. Il sait que c'est sa zone de jeu où c'est peut-être le moins performant du groupe. Et il a une prise de risque. Il attend sur ce niveau-là.
Devant, est-ce qu'on peut considérer avec le Brésil qu'on est sur la ligne d'attaque la plus performante du mondial?
Sur le papier.
Sur le papier, on est sur les individualités, un groupe d'individualités qui est très fort. Du Karim Benzema, Ballon d'Or, Kylian Mbappé, champion du monde, Dembélé, qui reprend un peu des couleurs au Barça et qui est champion du monde, hein, il ne faut pas l'oublier, même s'il n'avait pas beaucoup joué en 2018. Coman, lui, le pauvre qui subit toujours des blessures.
Ouais, mais qui apporte de la vitesse.
Un Giroud, alors voilà, il y aura le débat, on va parler un petit peu. Giroud, Griezmann, Nkunku, qui depuis 2 ans flambe en Allemagne avec Leipzig. Il a fait le choix de ne pas choisir en prenant Giroud. Il a annoncé, c'était dans un coin de sa tête depuis longtemps, même s'il ne le sélectionnait pas. Il a confiance au bonhomme et peut-être que... les trous au milieu font que Giroud fait le travail, Giroud va au charbon, Giroud monopolise des joueurs. Est-ce que ça fait partie aussi de sa réflexion?
Alors, quelques points très intéressants là-dessus. Sur le papier, oui, je te dis que c'est comparable. Par contre, ça montre des carences dans l'animation offensive sur les derniers matchs que l'on a vus de l'équipe de France. Mbappé s'entête et rappelle-toi qu'en conférence... Il réclamait Giroud. Donc, je pense que Deschamps a tenu compte des volontés d'Mbappé. Parce que Mbappé, ça peut être un joueur caractériel et il peut déjouer en forçant ses qualités. Rappelle-toi, en 2002, tu as la plus belle ligne d'attaque du mondial. Trezeguet.
Meilleur buteur d'Italie.
Oui,
meilleur buteur d'Angleterre. Le meilleur buteur de championnat de France avec Cissé.
Exactement. Et tu marques un but. Je ne sais pas si tu le marques. Enfin... ou zéro, voilà. Donc, c'est là où il faut faire attention, parce que sur tout est beau en visu, puis après dans le jeu, voilà. Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que tu vas être obligé de mettre tes joueurs confirmés devant et que ça n'aille pas. Alors, le cas Giroud, qui n'était pas prévu pour le faire, ce mondial, peut apporter ce liant, puisqu'il est capable de décrocher, il est capable d'imposer son jeu de tête, il est capable de faire jouer les autres. Hein, et c'est pas lui, il attire pas la lumière. C'est pas un joueur qui attire la lumière sur lui. Et ça peut.
Les espaces, oui.
Oui, ça. Alors, il faut voir l'association éventuelle Benzema-Giroud, parce que sur le 11 de départ, tu peux pas ne pas mettre Benzema Mbappé. Donc, est-ce que tu vas jouer à 3 attaquants? Est-ce que tu vas jouer avec un joueur décroché qui va reculer vers ce milieu Est-ce que tu vas laisser Mbappé dans l'espace parce qu'il aime bien être sur l'aile mais plonger au milieu aussi. Enfin, c'est toute la réflexion que Deschamps devra trouver.
Alors, en 2018, c'était très solide défensivement. On l'a vu, je crois, le point d'orgue de ce mondial, c'est cette demi-finale face à la Belgique, où finalement les Belges râlent, mais ils sont très stériles. Hein, ils ont une monopolisation du ballon, mais ils tirent très peu au but. Il n'y a pas un gros scandale non plus hein, sur la physionomie du match, même s'ils dominent, ils ne frappent pas énormément et la France est solide. Est-ce que là, il fait le choix de se dire je vais subir, mais j'ai de quoi riposter. Je vais encaisser des buts, mais je vais en marquer.
Alors, pour la petite histoire avec la Belgique, je compare le France-Belgique de 2018 au France-Allemagne de 86, quand en quart de finale, la Belgique éliminent le Brésil. Donc, ils sont au top niveau. C'est leur match le plus magnifique de leur histoire, presque j'ai envie de dire. Et pour la Belgique, ça a été ça. Donc, ils se sont vus peut-être gagner le mondial et se sont retrouvés impuissants face à la France qui a été solide sur ses bases. Ce qu'a été l'Allemagne contre la France en 86. Ça a été un match frustrant. Et pour les Belges, ça l'a été frustrant. Alors, pour revenir à ce que tu me disais, Deschamps fait une équipe avant tout solide physiquement qui, je pense, va accepter le fait de subir le jeu. Parce que,
c'était déjà le cas en 2018. Hein.
Ouais, mais avec des fulgurances. Parce que le il termine avec une belle attaque quand même. Hein. Je ne sais pas s'ils seront aussi prolifiques hein, sur cette attaque-là. L'Euro nous avait déjà montré les limites.
Hein,
voilà. Parce que ça encaissait beaucoup de buts aussi. Donc, est-ce qu'il
Pogba
se sert
avait un petit peu tendance à surjouer aussi.
Oui, c'est manqué peut-être de
simplicité,
d'attention. Hein, il faut toujours respecter le jeu. C'est parce qu'à 3-1, quand on se sent costaud, à plus que de raison, à un moment donné, le sport te le fait payer hein, si tu respectes pas les bases. Donc voilà, il veut avoir une défense irréprochable avec encaisser le moins de buts possible parce qu'il sait que peut-être ça va manquer d'efficacité devant, mais en marquant peu de buts, ça peut passer.
Alors, on va vite fait revenir un petit peu. On a, je pense, bien parlé de cette sélection. Vite fait, si je te parle Coupe du Monde, tes premiers souvenirs, toi, Coupe du Monde, si tu dois en ressortir un vraiment qui t'a marqué, ce serait lequel ?
82, France-Allemagne.
82 France-Allemagne.
Ouais, j'ai 7 ans, je vois ça, je vois la compétition pour la première fois. Je n'ai pas trop de souvenirs parce qu'à l'époque, je suis dans un pensionnat sur le continent et tu avais des élèves qui regardaient les matchs et d'autres qui regardaient des films. Et bon, moi, je regardais ça. Et arrivé pendant les. Puisque la Coupe du Monde commençait au mois de juin, on était encore scolarisés. Donc, je n'ai pas trop de souvenirs parce que commençais à suivre le ballon à cette époque-là. Et j'arrive en vacances dans l'hôtel de mon oncle où il y avait à l'époque c'était des grandes salles télé, il n'y avait pas les télés dans les chambres, tout ça, donc il y avait une immense télé et on regardait ce mondial là avec tous les clients de l'hôtel et notamment ce France-Allemagne avec monsieur Schumacher et ses gants en fer sur la mâchoire à Battiston.
Patrick Battiston. Alors, les bookmakers annoncent l'ordre suivant, c'est-à-dire favori Brésil. Brésil qui a pourtant perdu la Copa América contre l'Argentine.
Ouais.
La France, peut-être le Brésil qui a plus de certitude, je pense, en tout cas sur son 11 que la France. La France tout de suite derrière. Bon, championne du monde, à la limite, c'est normal qu'elle soit dans le trio de tête. Bizarrement, l'Angleterre, puisqu'il y a cette légende, voilà, ça va être à la période du Boxing Day. Les Anglais sont habitués à connaître les matchs à cette période-là. Ouais, mais peut-être pas à 30 degrés.
C'est ça, ouais.
Ensuite, Argentine, Espagne, Allemagne. Et derrière, un autre trio, Pays-Bas, Portugal, Belgique. La Croatie n'est pas dans les 10 premières finalistes. Pourtant, une équipe qui n'a pas tellement bougé que ça.
Pourtant, c'est costaud. Hein.
Donc, elle a pris 4 ans, mais elle n'a pas trop bougé. Est-ce que tu penses qu'on est plus ou moins juste ? Est-ce que les bookmakers sont plus ou moins justes ? Je voudrais que tu me cites ton favori, ton flop annoncé et un éventuel outsider qui peut être dans ses 11 ou une autre équipe.
Alors, les bookmakers, est-ce que, sûrement qu'ils tiennent en compte du classement FIFA. Le Brésil, ça revient toujours. Depuis que je suis le ballon, c'est le Brésil qui est favori. Mais dans tous les pays, dans tout le monde, à toutes les sauces, c'est le Brésil qui est favori parce que c'est le pays du football, c'est comme ça. Tu peux,
dans, 5 Coupes du Monde.
Dans 20 ans, ce sera encore les favoris. C'est tout le temps comme ça. Ensuite, ils citent la France parce qu'en tant que tenant du titre, ça fait partie des favoris. Parce que la plupart des joueurs, 4 ans après, sont là. Hein, ce n'est pas une fin de génération, donc pourquoi pas. Je suis quand même surpris que l'on ne cite pas le Danemark, parce que pour moi c'est mon outsider. Tu vois, tu me demandais.
Moi aussi, j'ai dit attention, bête noire dans la poule de la France.
Ça c'est voilà pour les.
Pour les spécialistes, ouais. C'est-à-dire que France, le groupe de la France sera avec la Tunisie, l'Australie et le Danemark. À savoir, je crois que c'est le dernier match en plus le Danemark.
Non, le deuxième.
Le deuxième. Pas d'erreur là, bête noire, 2 défaites d'affilée en Coupe des Nations.
Ouais, mais moi, j'ai vu des matchs du Danemark, justement, contre les Pays-Bas, contre la France.
C'est solide. Et puis peut-être que cet incident qu'il y avait eu à l'Euro aussi leur a donné une forme d'aura, une cohésion complètement.
Ça va vite.
C'est costaud physiquement.
Ça va 2000 quand ça contre-attaque. Alors, ça subit un peu le jeu par moment, mais ça reste pas derrière. Hein. C'est pas fort à la mot. Hein. Dès que ça ressort, ça peut aller très vite. Le Pays-Bas avait donné une belle riposte contre le Danemark. C'était un des plus beaux matchs que j'avais vu. Et quand je voyais l'équipe de France jouer derrière, j'ai dit oulala.
Alors attention, parce que si la France finit second et elle est de son groupe, il y a un remake des huitièmes de finale. Il y a un France-Argentine qui se profile.
Ou c'est en huitième ou c'est en quart.
Ou en quart. C'est un France-Argentine qui se profile. Peut-être pas l'année à se prendre les Argentins le plus tôt possible. À savoir que si tout le monde finit premier dans les groupes, il y a un éventuel Brésil-Argentine en finale.
Hein. Ouais.
Alors, en demi-finale.
En demi, pardon.
En demi. Donc, outsider, tu me dis le Danemark, d'Eriksen.
Ouais.
Favori, du coup, on reste sur le Brésil ou tu...
Moi, je pense que... Je ne sais pas. L'Argentine, moi, je le dis, alors, c'est pas par rapport à ton invité de la dernière fois, mais tu vois les joueurs. Messi, c'est son...
Son ultime rendez-vous.
Oui, et puis, il n'a jamais joué performant avec la sélection. Il y a toujours eu...
Du désamour, puisqu'il a voulu arrêter 2-3.
Oui, mais parce que lui, il voulait faire l'équipe, parce que lui, il voulait jouer avec ses joueurs. Enfin, c'était lui le sélectionneur, presque. Et je pense qu'il a accepté le fait de se mettre... au diapason de l'équipe et pas l'inverse, et pas l'équipe de se mettre au diapason de Messi. Et à partir du moment où mentalement c'est assumé, c'est accepté, je vois l'Argentine aller loin. Mais ça, le fait, parce que toi tu dis la France tombe mal contre l'Argentine, mais eux ils peuvent dire la même chose. Hein.
Oui, c'est un peu le débat Paris Saint-Germain-Bayern. Oui, voilà.
Alors, on ne sait pas hein, qui,
qui est le plus mécontent de tomber sur l'autre.
Voilà, exactement.
Sur le flop. Alors sur le flop, moi je dis toujours attention la France, parce que c'est ou tout bon ou tout mauvais. Voilà, c'est soit le carré.
Alors pour moi, ça va être mon flop.
D'accord.
Voilà. Maintenant, comme tu dis, parce que Deschamps a cette particularité de sublimer les joueurs à l'instant de compétition. Hein, ça fait 20 ans qu'il est là.
Je crois que le plus gros point fort de l'équipe de France, finalement, reste le sélectionneur.
Ah oui, complètement. Et leur euro raté va servir à Deschamps pour préparer tout ça. Alors, si on sort de ce
prisme franco-français,
ouais, je pense que l'Allemagne peut être un flop.
Ah oui, alors on est sur une transition, pas d'avant-centre, ils partent sans avant-centre.
Vraiment, même
Thibaut Werner qui n'était pas non plus l'assurance sociale, hein, la sécurité sociale.
L'Allemagne a eu des matchs très compliqués, notamment en Ligue des Nations, avec des sélections qui sortaient de nulle part, quoi. Mais ils se sont fait bouger dans le jeu parce que tu peux ne pas gagner un match et tu sais comment c'est. Tu tapes le poteau, le gardien il est en forme, tu n'es pas attentif sur leur contre-attaque, c'est là où ils marquent et tu n'y arrives pas alors que tu es au-dessus. Là, ils ont eu du mal. Je ne sais plus si c'était contre la Hongrie ou je ne sais plus quel autre pays. Oh, c'était vraiment compliqué.
Alors, qu'est-ce que tu attends, toi, de cette Coupe du Monde, qui va être la dernière pour de grands, grands joueurs. Hein. C'est-à-dire, bon, je pense que Benzema, c'est sa dernière grosse compétition, ouais. À 34-35 ans. Giroud aussi. Messi, Cristiano Ronaldo. Il y a les Suarez, les Cavani, Lewandowski. Il y a beaucoup de gros joueurs qui ont passé beaucoup plus que la trentaine, qui ne participeront probablement plus à une Coupe du Monde. Qu'est-ce que toi, tu attends ? Est-ce que tu attends de voir la fin des dinosaures ou est-ce que tu te dis, bon, finalement, moi, je vais prendre ça comme elle vient et je n'ai pas d'attente particulière vis-à-vis de cette Coupe du Monde.
Chaque génération de joueurs a eu leur période et on s'est dit, bon, quand eux vont s'arrêter, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Et puis, il y a toujours un joueur qui sort de nulle part et il y a toujours une sélection qui renaît.
Je cite Lewandowski, mais finalement, Lewandowski qui n'arrive pas à hisser sa sélection parmi les meilleurs.
Oui, après, c'est dommage parce que…
Super joueur.
Ouais, et puis des fois la sélection elle tourne bien. Hein. La Pologne, des fois c'est costaud, mais c'est pas. Dans la continuité, ça ne tient pas les résultats. Eh bien, oui, tu as la fin des joueurs, mais moi, tu me disais tout à l'heure en 82, 80, quand je regardais les premières Coupes du Monde, en 86, quand Platini s'arrête, quand tu as cette génération de joueurs avec Giresse, Tigana et le reste, tu te dis, putain, ça va être la fin de tout. Quand tu regardes d'autres sélections, tu vois que des grands joueurs. S'arrête, donc tu te dis mais qui va remplacer? Là on a des joueurs qui jouent actuellement qui sont peut-être en U18, U20, qu'on n'y a pas encore, les médias ne se posent pas dessus et peut-être que ça va être eux les futurs grands.
C'est vrai que bon, le Brésil a un réservoir incroyable, mais ouais, faut pas trop paniqué au niveau de la France, qui est considérée comme étant le deuxième plus gros réservoir de joueurs. On n'oublie pas quand même que la France est le deuxième, après le Brésil, le deuxième contingent étranger dans les grands championnats européens. Donc c'est quand même un pays de football, même si au niveau des clubs, c'est pas ça, il n'y a pas cette culture et tout, mais bon, au niveau de la sélection, on est une sélection qui a un avenir quand même puis, relativement radieux, puisque là, tu enlèves les Giroud et Benzema et 2-3 joueurs. La moyenne d'âge de l'équipe de France, ouais, est aussi jeune que 2018. Hein.
Alors, l'équipe de France, pour moi, ça ne va pas être les joueurs. Parce que quand tu cites la fin des joueurs, tu ne cites quasiment, à part Giroud, mais, qui n'est pas un grand joueur, c'est un très bon joueur.
Benzema.
Ça, Griezmann. D'accord. Et Griezmann, ça fait quelque temps qu'il ne fait plus rien.
Loris.
Oui, parce que c'est le capitaine de l'équipe de France. Donc oui, Loris, mais tu as toujours eu des bons gardiens. Bon, tu as Loris, Mandanda remplacé, hein, du coup. Areola, est-ce que c'est lui qui va faire? Donc je pense que ça va être Magnan.
Magnan ou Samba. Ouais.
Voilà. Mais c'est pas pour moi, c'est pas ça qui va décider de l'avenir de l'équipe de France. C'est ton sélectionneur. Parce que pour moi, Deschamps, c'est sa dernière Coupe du Monde.
Oui, alors, il y a Zidane qui devrait…
Alors, est-ce que lui serait capable, parce qu'on parle au conditionnel, hein, on ne sait pas. Est-ce que lui serait capable de relancer quelque chose?
Est-ce que quand
de
c'est trop fantasmé, finalement, c'est plusieurs années que son nom il circule, il s'est mis en retrait au Real de Madrid, ouais, quasi volontairement. Hein, il aurait pu continuer, hein, on l'a pas foutu
dehors.
Je
pense que oui, il se prépare pour la sélection.
Est-ce que à trop fantasmer, on risque d'être un petit peu déçu?
Non. Alors, de toute façon, Deschamps, moi, je l'ai vu. Je pensais qu'il allait s'arrêter après l'Euro. Bon, il fait la Coupe du Monde, ok. Mais tu es obligé de…
Le titre de champion du monde, Deschamps, ça n'a pas emmené finalement l'échec. Est-ce qu'il ne s'est pas dit, c'est les miens, je peux leur faire confiance, il n'aura pas donné trop confiance.
Ça n'a pas été le fiasco de Deschamps, hein, sur l'Euro. Hein, ça a été…
tu gagnes les égos.
3-1 contre la… Oui, c'est ça, c'est les égos. Et justement, les joueurs qu'il prend, ils se servent de cette déception sur l'Euro, hein, pour… nous, on ne comprend pas pourquoi il prend tel joueur par rapport à d'autres. Mais lui, il fait son groupe. Hein, il veut que ça soit cohérent entre eux. Je ne sais pas. Tu es obligé de… Je pense que si Deschamps continue la sélection, qu'il la gagne… Alors, pour moi, s'il la gagne, c'est sûr qu'il arrête. Mais s'il la perd, tu forces de derrière. Après, tu te lasses. Tu n'arrives plus à insuffler quelque chose de nouveau. Tu ne peux pas continuer tout le temps avec les mêmes personnes.
On voit avec Joachim Löw qui a…
Ça a été un des plus
anciens.
Long sélectionneur, je crois que ça a été le sélectionneur qui a duré le plus longtemps en Allemagne.
Il y a eu le titre de 2014 et puis après ça a été la lente descente aux enfers. Plus rien.
Parce qu'il faut trouver des éléments, des joueurs, il faut créer un schéma de jeu.
un allant sur telle personnalité de joueur. Il faut créer une cohésion de groupe, il faut créer un vestiaire. C'est compliqué. Hein.
Alors, tu sais que, pour conclure, l'émission est sponsorisée par la boutique Lunatic. Je demande à tous les invités de donner le pronostic des finalistes. Pourquoi ? Parce que celui qui se rapprochera le plus de la vérité remportera un bon d'achat de 80 euros à Lunatic. Est-ce que toi, tu peux d'ores et déjà me citer tes finalistes ? Alors bien sûr, s'il y a ex aequo ou quoi que ce soit, on fera pas un tirage au sort, mais on fera un quiz spécial Coupe du Monde pour départager un petit peu tous les participants. Alors là, pour l'instant, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous êtes 7. Il y a du France-Brésil, il y a du Pays-Bas-Angleterre, il y a de l'Argentine-Angleterre, du France-Argentine, de l'Argentine-Allemagne. Est-ce que tu vas innover ou est-ce que tu vas aller au plus simple ?
Argentine-Danemark.
Ah, on prend des risques. Argentine-Danemark. Là, c'est le joueur. C'est le joueur qui parle.
Ah oui, oui. Ouais. Moi, ça, pour moi, en termes de jeu, hein, pour moi, ce serait une belle finale.
Chers auditeurs, je vous rappelle que pendant cette Coupe du Monde, on essaiera de commenter quelques matchs en direct. On va essayer d'être présent. John, bien sûr.
Ouais, volontiers.
On va se commenter quelques matchs de l'équipe de France. On va se faire plaisir là-dessus. On va essayer de rigoler. On va essayer...
sans esprit critique.
De vous faire suivre tout ça en direct, bien sûr, hein, dans la bonne humeur, hein, et la joie de vivre, bien sûr. On n'a pas plus partisan que ça. Nous, on est
non, pas... on va essayer de passer un bon moment. C'est ça
qui
est
prévu. Un bon
moment en
votre compagnie. Et puis, bon, si vous êtes sur la route ou si vous êtes au travail et que vous ne pouvez pas allumer la télé, que la 5G, ça ne passe pas, eh ben, on sera là pour essayer. On va débriefer pendant la mi-temps. On va essayer de faire des choses.
C'est ça. Il faut, on va essayer d'apporter
une petite touche
locale.
Donc, bien sûr, on se donne rendez-vous pour un des matchs de l'équipe de France en commentaire. Donc,
tu sais quoi, ce qu'on peut faire ? On peut commenter le match de la poule, la finale de la poule, le France-Danemark. Ça va être bon.
On peut se faire le France-Danemark. Ah, ouais. Donc, rendez-vous pris. J'ai un Argentine-Pologne avec Lucho.
Excellent.
Et donc, avec toi, un France, qui sera quasiment la finale de son groupe, hein, avec le Mexique composé du Mexique et de l'Arabie Saoudite, les pauvres.
C'est que c'est il va pas être simple.
C'est homogène, les deux autres sont homogènes, ils peuvent pas faire d'erreur. C'est ça.
Il y a un match nul qu'ils peuvent pas se permettre.
La France, bon, je pense que la Tunisie est trop faible et je pense que l'Australie, bon, à part que c'est débouché, qu'est-ce qu'ils risquent à part des blessés, pas grand-chose.
Le souci avec la France quand ils jouent contre les pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, c'est les matchs de leur vie des autres, quoi. C'est en termes d'historique, ça a toujours été comme ça.
Donc oui, alors c'est soit très serré, soit c'est une,
du
5-0.
Hein, voilà.
On va être honnête. Avec bien sûr notre Wabi Wabi Nouchtral qui va porter cette sélection.
Il y a des difficultés en club, mais
de la Tunisie.
Je pense qu'avec la sélection, il peut. Ça,
il va faire de belles choses. En tout cas, super joueur de ballon. Donc on lui souhaite le meilleur. Chers auditeurs, on se dit, nous, rendez-vous vendredi pour une autre catastrophe.